Et nous prenons la direction d'Haguenau maintenant avec Simon Varinsky et son invité.
Chers auditeurs d'Accent 4, vous êtes sur Tempo Matin et nous recevons ce matin Nicolas Wittner. Nicolas Wittner est professeur, chef de chœur et fondateur de la maîtrise Sainte-Philomène d'Haguenau. Véritable phénomène musical de l'année passée et de ce début d'année 2024. Ayant été tour à tour lauréat du prix Liliane Bettencourt et du grand concours des régions du meilleur chant folklorique de France sur France 3. La maîtrise Sainte-Philomène d'Haguenau est un projet pédagogique et musical tout à fait singulier, ayant pour ambition, et je cite la présidente du jury du concours Bettencourt, Laurence Equilbé, qui permet donc de croiser le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, permettant à chaque choriste de se construire en tant que musicien et enfant. Bonjour et bravo Nicolas.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous retrouvez votre maîtrise dans cette description de Laurence Equilbé ?
Oui, les trois formes du savoir sont un élément essentiel pour nous. Et c'est vrai que je suis content d'ailleurs qu'elle ait pu le mentionner, parce que dans tout le projet pédagogique, je crois que tout est tourné autour de ces trois formes de savoir. Et le fait d'avoir la construction d'un enfant à travers un projet d'ensemble, c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, oui.
Alors, comment est né ce projet pédagogique à Haguenau ?
Alors, ce projet pédagogique est né en 2007. En fait, en 2007, je cherchais un lieu d'accueil pour ce projet et c'est finalement l'institution Sainte-Philomène qui est un établissement privé qui l'a pris en charge et on a commencé en 2007 à recruter des élèves et puis faire un petit peu autour de nous. Donc, il y avait des amis à moi qui sont venus m'aider pour donner quelques cours. Et rapidement, au bout d'une année, on est allé présenter ce projet d'école maîtrisienne à la ville de Haguenau. Et en fait, ils y ont cru tout de suite. Et donc ça, c'était une vraie force aussi, et puis quelque chose de très surprenant aussi pour moi, d'avoir autant de volonté de mettre ce projet en avant. Et du coup, à partir de 2008, on a eu un partenariat avec la ville et un rapprochement avec l'école de musique. Plusieurs collègues, du coup, sont venus travailler avec moi, des collègues de l'école de musique. Et on a déjà pu mettre en place, dès 2008, un projet avec à peu près 13 heures de cours par semaine pour les élèves.
Alors, on en parlait un petit peu en antenne, Nicolas, sur la création de ces maîtrises. Et je crois que dans l'association ou la fédération des chœurs d'enfants, vous avez fait une analyse un peu de ces créations de ces maîtrises, qui n'est pas une appellation d'origine contrôlée, on va dire, ou qui n'a pas en tout cas de statut juridique particulier. Mais comment ces projets naissent ? Est-ce que il faut nécessairement une volonté d'une personne ? Est-ce que c'est un projet qui se construit ? Comment les choses se construisent ?
Alors d'abord, c'est vrai qu'on a analysé avec la Fédération des petits chanteurs, on a essayé de faire une mise au point des différents chœurs. Alors il y a aussi l'IFAC hein, qui a analysé toutes les l'institution française d'art choral, qui a analysé toutes les écoles maîtrisiennes qui existent, les projets maîtrisiens. Et c'est vrai, déjà, la première chose qu'on a pu réaliser, c'est qu'il n'y a pas de brevet sur le mot maîtrise. C'est-à-dire qu'on différencie des chœurs d'enfants, des écoles qui sont rattachées, des chœurs d'enfants qui sont rattachés à la liturgie. Mais par contre, l'appellation école maîtrisienne, elle, est un peu spécifique. Quand on parle d'école maîtrisienne, c'est qu'il y a un projet pédagogique avec finalement plusieurs ateliers à l'intérieur. Pas simplement 2 heures d'apprentissage et du chant, mais peut-être plusieurs ateliers, un peu de piano, un peu de déchiffrage, un peu de formation musicale. Ça, c'était finalement notre première remarque, le fait que l'appellation maîtrise n'est pas brevetée, si vous voulez. La deuxième, c'est effectivement, on a essayé de voir quels sont ces différents projets et puis déceler les différences entre chaque projet. Mais en tout cas, le point commun, c'était à chaque fois, à l'origine, une personne qui faisait vraiment rayonner le projet. Et je crois que c'est vraiment ça. Lorsqu'on parle de toutes les écoles maîtrisiennes qui existent en ce moment, il y a vraiment finalement quelqu'un qui a été maître d'œuvre et qui a mis ce projet en place.
Alors, dans les mots que vous utilisez, il y a beaucoup de choses qui me font penser à une maîtrise qui peut-être vous tient à cœur, qui est votre maîtrise d'origine, que je connais bien, qui est la maîtrise de Colmar, à la fois avec une personne qui en a été le chef emblématique ou la chef emblématique, Arlette Steyer, et ce projet pédagogique, avec ce credo qui, je pense, que vous partagez à la maîtrise Sainte-Philomène, c'est-à-dire des enfants ordinaires à qui on demande l'extraordinaire. Que gardez-vous de cette enfance à la maîtrise de Colmar ?
Quasiment tout. Hein. C'est vraiment le début, puisque mes parents n'étaient pas musiciens. Et c'est vrai que je suis arrivé dans ce projet un peu par hasard. Hein. Et c'est de là qu'est née une vraie passion déjà pour la musique, mais bien plus puisque c'est devenu mon métier, mais aussi une vraie passion aussi pour ces projets. J'ai découvert à travers cette maîtrise d'Arlette Steyer une vraie vision d'un projet pédagogique différent de celui qu'on peut avoir dans des conservatoires à travers vraiment une pédagogie de projet. Alors c'est une maîtrise qui m'a forcément beaucoup touché parce que non seulement j'y ai vécu en tant qu'enfant, j'ai pu chanter des choses absolument extraordinaires, côtoyer des gens absolument extraordinaires et surtout avec une vision d'enfant. C'est-à-dire que bien plus tard, j'ai réalisé que j'avais chanté avec telle ou telle personne. Par exemple, j'ai appris peut-être 10 ans plus tard qui était Dominique Vélard, alors pourtant que j'avais chanté sous sa direction, avec lui, des œuvres de Palestrina. Et ça, c'est aussi la richesse de ces projets maîtrisiens. C'est la vision, finalement, de l'exigence musicale de l'enseignant, mais à travers le regard d'un enfant. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Ouais.
Nicolas, est-ce que vous pouvez nous décrire la journée type d'un maîtrisien ?
Alors, la journée type d'un maîtrisien, c'est le parcours scolaire. Donc, imaginons qu'on est en CM2, classe normalement, dans une classe où ils sont répartis entre élèves maîtrisiens, mais aussi avec des élèves qui suivent une scolarité tout à fait normale. Les cours s'arrêtent plus tôt. Donc, imaginons un lundi lambda pour un élève de CM2. Les cours s'arrêtent à 14h30 et ensuite, il arrive du coup au sein de la maîtrise qui est dans les locaux de l'école de musique. Et puis là, il y suit différents ateliers. Ça peut être de la formation musicale, du déchiffrage, de la technique vocale ou de la pratique chorale.
L'expression corporelle aussi, ou est-ce qu'il y a des choses sur la mise en scène ou
Alors l'expression corporelle en tant que telle n'est pas un cours, mais par contre c'est vrai qu'on amène nos élèves à faire au moins tous les 2 ans un projet chorégraphié, donc soit sous la forme d'un opéra, soit sous la forme d'un conte musical, qui les amène à pouvoir s'exprimer sur scène à travers des gestes, à travers du théâtre, etc.
La suite de cet entretien dans un instant, mais justement, écoutons ensemble la maîtrise Sainte-Philomène d'Haguenau avec 2 compositions de John Rutter. La première s'intitule For the Beauty of the Earth, pour la beauté du monde, et ensuite The Lord Bless You and Keep You. Voici la maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau.
Thank you.
Nous sommes ravis de vous faire découvrir la maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau sur Accent 4, votre instant classique avec à l'instant deux compositions de John Rutter et la découverte de cette maîtrise avec Simon Varinsky.
Alors vous êtes sur Accent 4 et nous recevons ce matin toujours Nicolas Wittner. Nous parlons de la maîtrise Sainte-Philomène d'Haguenau. Comment se passe le recrutement à la maîtrise ? C'est sur concours ? Est-ce que tous les enfants sont admis ? Comment les choses se passent ?
Alors, c'est un peu une particularité des écoles maîtrisiennes. Je ne parle pas que de la nôtre, mais en tout cas, là, c'est pour le coup, l'exemple que je donne, c'est la nôtre. Mais on ne recrute les enfants qu'au niveau CE2. C'est-à-dire qu'en CE1, il y a une année d'initiation où on propose, du coup, on a à peu près 80 élèves qui suivent une initiation chant choral. Et de ces élèves de CE1, on va en fait recruter des élèves qui vont suivre ce parcours maîtrisien. Au-delà de la classe de CE2, on ne recrute quasiment plus, ou de manière vraiment très, très, très exceptionnelle. Là, par exemple, on avait quelques places il y a quelques années en 6e, donc on a recruté des élèves, mais sinon, l'essentiel du recrutement se fait en CE2. Et c'est un peu ça la force de ces projets, parce que c'est à l'inverse de ce que vivent les élèves actuellement. On est beaucoup dans... on consomme beaucoup de choses, on varie beaucoup les différentes activités. Nous, au contraire, en fait, on va mener une pédagogie sur le long terme. On va leur demander de s'engager finalement en CE2 pour finalement avoir arrivé au niveau maîtrise bien plus tard, pouvoir faire les concerts, les tournées, etc. bien plus tard.
Alors... Quelle est la fin de la scolarité d'un maîtrisien ? Est-ce que c'est la mue qui apparaît comme un couperet ? Est-ce qu'il y a un cœur d'homme de la maîtrise qui vient se greffer ? Comment les choses se passent à la fin du cursus ?
Alors, c'est vrai qu'on est un cœur du coup mixte. Donc, on a à la fois des filles, à la fois des garçons. Les garçons, on leur propose tout de suite le passage en cœur d'homme. Alors, c'est vrai qu'on passe du coup d'une scolarité lorsqu'ils sont maîtrisiens. Ils ont à peu près 7h, 7h30 de cours par semaine. Et lorsqu'ils passent en voie d'homme, du coup, le cursus se rapetissit un petit peu. Hein. Ils ont à peu près 3 heures par semaine. Par contre, pour les filles, c'est vrai que cette suite est possible. Alors, on stoppe, si vous voulez. Normalement, l'enseignement maîtrisien termine en 3e et on accepte chaque année des élèves qui veulent continuer leur parcours. Et en fonction des places qu'on a, on peut les accepter, du coup, en seconde, première.
Nicolas Wittner, je voudrais qu'on revienne sur deux événements, on va dire marquants pour le chœur, qui sont des événements presque d'actualité, ou en tout cas très récentes. Le prix Liliane Bettencourt, tout d'abord, qui a pour vocation de récompenser le chant choral, en tout cas l'excellence dans le chant choral, et qui, alternativement, récompense un chœur professionnel et un chœur d'enfant. Vous en avez été le lauréat l'an dernier, en 2023. Alors, comment s'est passée l'attribution de ce prix ? Est-ce qu'il faut y postuler ? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive comme ça, tout d'un coup ? Est-ce que vous nous en parlez ?
Alors, c'est un prix, du coup, qui se passe sous forme d'un concours. Hein. Donc, c'est principalement les enregistrements qu'on envoie et d'un dossier pédagogique. Et alors c'est quelque chose qui c'était un concours qui me tenait à cœur depuis longtemps, déjà parce que ce concours représente un peu l'excellence du travail et une vraie reconnaissance. Alors bien sûr, il y a un prix, hein, je vous cache pas qu'il y a forcément un prix, un peu d'argent qui est amené à tout ça, mais c'était surtout la reconnaissance de la qualité du travail qui est fourni à Haguenau. Et ce qui me tenait à cœur aussi dans ce projet, c'est que bien sûr il y a les extraits qu'on envoie, mais il y a aussi un dossier pédagogique qui est extrêmement conséquent. C'est-à-dire qu'en totalité, c'est une vingtaine de pages où on va vraiment pouvoir montrer quel est le travail qui est fourni et comment on amène finalement ces élèves à ce niveau-là à travers différents ateliers, différents collègues et puis plusieurs partenaires.
Je crois que quand on gagne le prix Liliane Bettencourt, on a un privilège exceptionnel, c'est celui d'aller à la rencontre de l'Académie des Beaux-Arts et de chanter sous la coupole. Racontez-nous ce moment.
Voilà, c'est un moment qui... c'est là où c'est toute la force aussi de travailler avec des élèves, c'est que moi j'étais stressé énormément, parce que malgré tout, on chante devant des académiciens. Nous, on a tout à fait notre conscience d'adulte, de savoir où on est, où on chante, et le privilège qu'on a. Et les élèves ont aussi cette conscience du privilège, mais avec leurs yeux d'enfant, c'est-à-dire que je pense qu'eux étaient beaucoup moins stressés que moi. Et on a pu chanter du coup le 15 novembre devant l'ensemble des académiciens, sous la coupole du Grand Palais. ce qui est quand même un privilège immense.
Qu'est-ce que vous avez chanté ?
Alors, on a chanté, du coup, une pièce d'un compositeur alsacien qui s'appelle Bernard Linhart, qui avait écrit, du coup, un extrait d'un Tédéum qu'on a chanté, qui, pour voix a cappella, qui était le Miséré, un Miséré extrait de son Tédéum. Et la deuxième pièce qu'on a choisie, du coup, avec Laurent Petit-Gérard, qui est le secrétaire perpétuel, c'était Song for Athènes. Et en fait, ça a résonné à travers aussi son discours de fin de cette séance solennelle, où il reprenait, finalement, ben, le cas de la Russie et de l'Ukraine. Et là, c'est vrai que c'est une pièce, si vous voulez, qui rend vraiment hommage et puis qui peut servir de résonance, finalement, à toute l'actualité.
Vous parliez d'un compositeur alsacien. Alors, de l'Alsace, on va en parler un peu plus précisément, et de ce fameux concours que vous avez gagné, qui est un concours qui était présenté sur France 3, concours des régions sur le meilleur chant folklorique de France. Concours que vous avez remporté le 5 janvier, je crois. Vous pouvez nous parler de ce concours, et justement, c'était de la musique alsacienne, alors oui. Là, au sens le plus traditionnel du terme, puisque c'était de la musique folklorique, des chants en alsacien, chants traditionnels en alsacien. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de ça, mais également de peut-être un attachement à ce patrimoine musical alsacien qui est très fort, très présent?
Alors, en février 2023, on a eu une demande d'une société de production qui organisait ce concours, et il cherchait en fait un chœur d'enfants qui puisse défendre les valeurs de l'Alsace. Et c'est vrai que du coup, ben, nous, on n'est pas un chœur folklorique, si vous voulez, mais on a cherché à travers la production, on a cherché ce qui pouvait représenter notre patrimoine. Et c'est vrai qu'en Alsace, on a quand même énormément de chœurs d'enfants. C'est quand même une région qui est extrêmement qui chante. On a des chœurs absolument partout, on a des harmonies absolument partout, on a un théâtre qui vit et qui représente notre patrimoine folklorique. Donc finalement, le chœur d'enfants, je trouve que finalement, c'était un beau choix. Alors certes, on n'allait pas débarquer en costume d'Alsacien et reprendre peut-être un folklore plus axé sur la fête, qui sont aussi nos traditions. Donc on a cherché ce qui pouvait représenter notre patrimoine, tout en gardant notre identité aussi, de l'identité de notre chœur. On a trouvé du coup deux chants, on a trouvé une berceuse qui s'appelle Schlof min Kindela, qui est en fait un Noël qu'on retrouve comme une espèce de timbre, c'est-à-dire qu'on retrouve cette mélodie sur plusieurs textes, mais il est vraiment rattaché, et lorsqu'on le retrouve à chaque fois, on voit Noël alsacien, donc ça m'a interpellé, et j'ai trouvé finalement cette berceuse alsacienne, et j'ai demandé à un compositeur alsacien, Bernard Linhart, de pouvoir réécrire cette pièce-là, avec la particularité de notre cœur d'enfant.
Et l'autre pièce ?
Alors, l'autre pièce était encore plus complexe parce que je suis remonté, j'ai entendu à travers Catherine Fender, j'ai entendu un retour de concert qui avait été donné aux Dominicains.
Donc, Catherine Fender, chef de chœur également,
qui dirige Sang.
Voilà.
Et en fait, j'ai entendu un extrait de leur concert où elle reprenait une mélodie que j'ai découvert qui s'appelait « Il faut Himmel ». Je l'ai contacté, puis on a cherché l'origine de ce chant. J'ai contacté Roger Siffert du théâtre. J'ai contacté beaucoup de personnes parce que finalement, on se posait la question « Mais d'où vient cette musique-là » et qui a écrit cette mélodie ? Alors, en faisant toutes mes recherches, j'ai trouvé qu'on avait finalement deux recueils. On avait un abbé qui s'appelait l'abbé Pink, qui en Lorraine, au 19e siècle, avait recensé toutes les mélodies, parce qu'il avait bien conscience que l'Alsace était une terre d'accueil, qu'on avait vraiment un patrimoine alsacien, mais qu'il se perdait. Donc, il a essayé de recenser les mélodies. On a aussi M. Wekerlin qui a aussi pris ces mélodies, qui en a rassemblé deux tomes. Et même si je n'en ai pas encore la certitude totale, parce qu'on n'arrête pas de s'interroger, on a même trouvé une version que Eugène Mégel, l'ancien directeur de l'école de musique, avait retranscrit de Colmar, avait retranscrit pour, je me sens, quatuor à cordes. Bref, j'ai essayé de centraliser tout ça, et une fois que j'avais le maximum d'informations, ce qui est sûr, c'est qu'on est plutôt au XVIe siècle, on trouve un peu de côté celtique dans cette musique-là. Et j'ai missionné aussi Bernard Linhart pour qu'il nous réécrive cette mélodie-là, qui est vraiment rattachée, si vous voulez, à l'Alsace, mais qui donne une couleur très, très particulière à l'Alsace. Honnêtement, c'était pour moi une vraie trouvaille. Et en plus, je trouvais que ça reprenait, c'était quelque chose qui reprenait les couleurs et puis qui pouvait vraiment s'adapter finalement à un cœur d'enfant.
Est-ce que vous allez en faire quelque chose d'autre de ce travail sur cette musique alsacienne, d'origine alsacienne.
Alors, on a enregistré, si vous voulez, Il faut Himmel. On l'a enregistré, on le sortira bientôt. D'autant plus que le tournage de cette émission s'est passé en février. Donc, on a dû garder tout ça secret, puisque l'émission a été diffusée un an plus tard. Ah, ouais. Donc c'est d'ailleurs une des pièces que Il faut Himmel que j'ai présenté pour le dossier Liliane Bettencourt, en D'accord. mettant en avant aussi ce côté patrimoine alsacien, parce que c'est un petit peu ça, si vous voulez, le travailler dans une école maîtrisienne, c'est brasser un répertoire très très large qui permet aussi à la voix de se développer dans plusieurs aspects, notamment selon le répertoire adapté, quoi.
Alors, comment était vécue cette expérience audiovisuelle par les enfants de la maîtrise de Sainte-Philomène de Haguenau ?
Voilà, vous l'imaginez de manière assez incroyable, parce que autant nos élèves sont habitués à faire des concerts. Je pense qu'ils ont été pas moins stressés pour la coupole, mais c'est quelque chose. Lorsqu'ils ont chanté sous la coupole, c'est quelque chose qu'ils savaient faire, donc ils savaient comment ça fonctionnait. L'enregistrement d'une émission, c'est complètement différent. C'est la réalité du plateau, c'est les lumières, c'est aussi cette notion de star qui existe un peu moins, si vous voulez, dans les concerts ou dans la musique plus classique. Donc là, c'était pour eux, je pense, un beau moment. Et puis c'était un peu une parenthèse dans notre année par rapport à notre programmation. Et je pense qu'ils en gardent vraiment un souvenir assez incroyable.
Est-ce que là, cela a changé quelque chose en termes de notoriété ? Est-ce que vous avez senti depuis le 5 janvier une espèce d'engouement particulier, peut-être dans les candidatures, peut-être chez les organisateurs de concerts ? Est-ce que le quotidien de la maîtrise Sainte-Philomène a changé ou s'est modifié ?
Oui, alors là, très clairement, depuis le 5 janvier, on a pas mal de demandes. Ouais. Et c'est aussi ce qui est beau dans ces projets, parce que là, on est sur finalement un concours ou un prix qui est un peu plus populaire, si vous voulez, que le prix Liliane Bettencourt, par rapport au public visé. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est que les gens découvrent, par exemple, le prix Liliane Bettencourt, mais en ayant découvert notre prix ou notre passage à la télé. Et c'est aussi ça, notre richesse, et puis culturellement, notre force, c'est de pouvoir amener finalement un projet d'excellence partout. La culture est là et peut être présente partout.
Alors, je pense qu'on va peut-être pas tout à fait nous quitter sur ces mots-là, mais presque. Est-ce que vous pouvez nous parler avant cela de vos projets de concert ou peut-être de votre agenda à venir ?
Alors, le projet qui va intervenir assez rapidement, c'est un projet qu'on a imaginé avec la Fondation Liliane Bettencourt. C'est un projet de réalité immersive. Donc c'est un projet qui sera tourné le 3 et le 4 février, dans lequel on aimerait faire vivre, à travers, vous savez, le casque de réalité virtuelle, au public, la vie d'un maîtrisien. Donc le projet s'appelle « Vie dans mon cœur ». Il sera diffusé sur Haguenau du 6 au 21 octobre. Et on essaye de faire vivre, si vous voulez, l'auditeur qui normalement accède à un concert de loin. Là, il sera au centre d'une mise en scène dans laquelle on interprétera quatre pièces qui représentent et qui ont été choisies par les élèves comme quatre moments forts, musicaux forts. Par exemple, on fera un extrait des Carmina Burana qui représente pour les élèves cette force, cette puissance de la voix, cette exaltation. Et puis, par exemple, un extrait de La News d'Edith Barber qui, elle, représente pour nos élèves finalement un côté beaucoup plus intimiste, avec une émotion beaucoup plus grande. Et on partage du coup avec un auditeur, puisque même si les séances se passeront à travers 15-20 casques de réalité virtuelle, on s'adresse à une personne et tout est tourné autour de cette personne-là.
Un projet passionnant que nous suivrons sur Accent 4, Nicolas Wittner, et nous continuerons à suivre de très près cette maîtrise Sainte-Philomène d'Haguenau. Un grand merci Nicolas, à bientôt et puis tout de suite la suite de Tempo Matin.
Merci.
Merci à vous d'avoir été dans nos studios à Accent 4 pour découvrir le travail exceptionnel de la maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau que nous allons retrouver. Maintenant, on va écouter avec attention ce morceau de Malcolm Archer interprété par l'ensemble de la maîtrise. Voici Pieds Jésus.